Le Peuple Lu. Une nouvelle émission littéraire présentée par Laura Ciboni.
Bonjour et bienvenue dans Le Peuple Lu, le rendez-vous littéraire qui met en lumière les écrivains juifs du XXe siècle. De A à Z, de Shalom Hache à Stefan Zweig, de la poésie de Joseph Brodsky aux essais de Simone Veil, de l'Alsacien Claude Vigée au russo-franco-argentin Joseph Kessel, leurs mots vibrent encore. Entre exil et enracinement, tragédie et génie, ces auteurs ont façonné un siècle de littérature tourmentée et fondateur. Pour les découvrir ou les redécouvrir, installez-vous et ouvrez grand vos oreilles. Nous sommes en 1904, en Pologne, un pays qui, à l'époque, n'existe même pas sur les cartes. Il est morcelé entre la Russie, la Prusse et l'Autriche. Witold Gombrowicz grandit dans une famille aristocratique, mais il s'intéresse moins aux particules et aux traditions qu'à la provocation. Là, je dois préciser que je me suis trompée. Gombrowicz n'a pas de lien avec le judaïsme. Mais né en Pologne au début du siècle, écrivain anticonformiste, on l'a tout de même accusé d'être juif et c'est ce qui m'a induite en erreur. Mais après tout, puisqu'il a été victime d'antisémitisme, que son œuvre a été inspirée par des auteurs comme Kafka ou Singer, et surtout parce qu'il a choisi l'humour et la dérision comme armes face à la barbarie du monde, on peut lui faire une place au peuple lu. Il m'a fallu pas moins de 3 recommandations pour que je découvre son œuvre à travers ses premières nouvelles dans un recueil qui s'intitulait à sa publication « Mémoire du temps de l'immaturité » et qu'il a repris des années plus tard sous le nom de Bakakai. La première nouvelle de ce premier recueil traite déjà du complexe identitaire d'un narrateur dont le père est polonais de race, c'est un élément important, et la mère juive. Bref, l'erreur n'était pas fortuite et Gombrowicz a toute sa place au peuple lu. Le jeune Witold étudie le droit, la philosophie, l'économie à Paris. Dans les années 30, il publie « Mémoire du temps de l'immaturité », puis « Ferdi Durk », un roman ovni qui dynamite la littérature polonaise avec son humour absurde et sa critique des conventions sociales. On parle d'enfant terrible, on le compare à Don Quichotte. Le livre choque, amuse, divise et annonce déjà l'obsession de Gombrowicz. L'identité est une mascarade et les règles du jeu social sont ridicules. En 1939, Gombrowicz part en mission culturelle en Argentine et il n'en reviendra jamais. Il devient un exilé, un écrivain coupé de son pays qui continue à écrire dans l'ombre, loin des circuits officiels. Pendant que la Pologne s'enfonce dans la guerre, lui, depuis Buenos Aires, publie Transatlantique, où il ridiculise le patriotisme et tourne en dérision l'image du grand écrivain polonais. Autant dire que dans la Pologne stalinienne, son œuvre n'est pas très bien reçue. Mais en France, dans les années 60, on le redécouvre. Les possédés ou les envoûtés, selon les traductions, et on verra qu'elles ne sont pas faciles avec lui. Pornographie, cosmos, son style est toujours le même. Irrévérencieux, dérangeant, drôle et profondément libre. Il joue avec les formes, les conventions, et surtout il refuse qu'on le range dans une case. Il meurt à Vence, en France, 2 jours après que les premiers hommes aient marché sur la Lune. Pour Gombrowicz, on joue tous un rôle, que ce soit en société, en littérature ou en politique. Il démonte les codes, ridiculise les grandes idées figées. Son style, ironique, provocateur, subversif. Il ne cherche pas à plaire, il cherche à secouer. Dans Ferdi Durk, son roman le plus célèbre, un trentenaire se réveille transformé en adolescent et se retrouve piégé dans un monde où on le « cucultise », selon son expression, où on l'infantilise. Le langage, plein de ses diminutifs dont les langues slaves sont si riches, porte déjà une critique cinglante de l'éducation, des conventions sociales et de cette tyrannie du regard des autres qui nous enferme. Puis il y a Transatlantique, où il tourne en dérision le nationalisme polonais. Et Pornographie, où il s'amuse à tordre la morale en plongeant 2 adultes dans un étrange jeu de manipulation autour d'un jeune couple. Enfin, Gombrowicz, c'est aussi la guerre contre la grande littérature. Il méprise le sérieux des écrivains officiels, ceux qui écrivent pour la gloire de la nation ou pour la leur. Son journal, 1953-1969, est un chef-d'œuvre d'intelligence et d'autodérision où il parle de tout, exil, art, politique, et surtout de lui-même, avec une rare honnêteté et indépendance d'esprit. Il conclut en philosophe « J'ai écrit des sottises, mais je n'avais signé aucun engagement de produire uniquement des ouvrages sages et parfaits. » Tout de suite la pause musicale, le concerto numéro 1 pour violon de Karol Szymanowicz pour l'arrivée du violon au tout début. C'était le concerto pour violon numéro 1 de Karol Szymanowski, compositeur et pianiste polonais. L'invité a très bien fait de me reprendre sur la prononciation du nom, qui est donc Szymanowski, parce que, vous le verrez, le rapport à la langue et à l'histoire polonaise ne sont pas innocents chez Gombrowicz. Szymanowski est un grand enseignant aussi. Ce concerto, on le retrouve dans la scène finale du film « Les Demoiselles de Wilko » de Andrzej Wajda, que j'espère avoir bien prononcé cette fois. Et on retrouve aussi ce pied de nez qu'on trouve souvent chez Gombrowicz. Et c'est pour cela que j'aimerais vous lire un extrait de la première nouvelle de son premier recueil, qui s'est donc intitulé dans sa version finale « Bakakai ». Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai constaté, les oreilles toujours remplies de ce rire, que tout ce pour quoi j'avais jusqu'alors vécu était tombé en poussière. Que mes rêves d'une existence nouvelle et heureuse auprès d'Edwige s'étaient effondrés. Et que, dans le vide qui s'était ouvert devant moi, il ne me restait plus rien d'autre à faire que de devenir communiste. Pourquoi communiste ? Mais disons d'abord ce que j'entends par ce mot. Cette dénomination n'implique à mes yeux aucun contenu idéologique défini. Aucun programme, ni plan. Tout au contraire, je l'emploie plutôt pour ce qu'elle contient d'étrange, d'hostile et d'obscur, et qui provoque obligatoirement chez les gens les plus graves, soit des haussements d'épaules, soit des cris sauvages d'horreur et d'effroi. Mais s'il faut absolument un programme, alors le voici. Je demande, et j'exige, que tout, les pères et les mères, la race et la foi, la vertu et les fiancés, que tout soit nationalisé et distribué contre ticket en portions égales et suffisantes. Je demande, et je soutiendrai cette demande devant le monde entier, que l'on coupe ma mère en petits morceaux et que l'on donne un de ces morceaux à quiconque manque d'ardeur dans ses prières. Et qu'on fasse la même chose avec mon père, pour distribution aux êtres qui manquent de race. J'exige également que tous les sourires, toutes les grâces, tous les charmes ne soient fournis que sur demande expresse, tandis que toute manifestation de répugnance injustifiée vaudra à son auteur la maison de correction. Tel est mon programme. Quant aux méthodes, elles consistent avant tout à rire de façon perçante et à cligner des yeux. Je persiste à poser en principe que la guerre a détruit en moi tout sentiment humain. J'affirme ensuite que, en ce qui me concerne, je n'ai signé la paix avec personne et que pour moi les hostilités n'ont pas été interrompues. Ah, vous écririez-vous, ce programme est irréel et les méthodes sont stupides et incompréhensibles. Bon, mais votre programme à vous est-il plus réaliste et vos méthodes plus compréhensibles? Je ne m'entête pas d'ailleurs, ni au sujet des méthodes, ni au sujet du programme. Et si j'ai choisi la dénomination de communisme, c'est que ce communisme est pour les esprits adverses un mystère aussi impénétrable que pour moi vos petits sourires et vos petites colères. Moi, j'ai trouvé que tout Gombrowicz était dans cet extrait et qu'il était très juste au sujet de l'histoire polonaise déjà et puis de l'évolution de l'auteur. C'était donc un extrait des mémoires de Stéphane Czarniecki, de première nouvelle de Bakakai, par Witold Gombrowicz. Pour en parler plus en détail, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Sadia Robin, qui est déjà intervenue sous ses ondes sous une autre casquette, puisque Sadia, vous dirigez le festival de cinéma franco-allemand à Augenblick. Vous êtes d'origine polonaise et érythréenne. Merci beaucoup d'intervenir.
Merci, Laura, c'est Yoni.
Merci beaucoup. Et vous recommandez ce bel extrait du podcast « Une vie, une œuvre » qui est dédié à Gombrowicz et diffusé sur France Culture en 2007. Donc tout de suite, le podcast « Une vie, une œuvre » sur Gombrowicz.
Alors, si vous dites que je suis exilé, évidemment que oui. Premièrement, je suis un exilé politique. Parce que je ne vais pas revenir maintenant à cause du régime communiste en Pologne, mais aussi dans un sens spirituel. C'est-à-dire que je suis un écrivain, je veux en tout cas être un écrivain universel et dépasser ma situation particulière de Polonais. Même je ne voudrais pas être un écrivain européen seulement, de sorte que je plante toujours des problèmes universels. Et d'autre part, disons, ma philosophie est de dépasser la nation. Je suis dans un certain sens un antipatriote. J'exige que les Polonais, au moins l'élite culturelle de Pologne, l'adaptent une certaine distance envers Pologne. qu'il ne soit pas trop patriote, qu'il ne s'identifie pas trop avec les Polonais. Enfin, dans un mot, j'exige qu'un Polonais soit un homme et non un Polonais. Alors, dans ce sens-là, naturellement, je suis un exilé un peu partout, parce que je ne suis jamais identifié avec les choses locales, les nations, les cultures, disons, particulières, mais plutôt je suis tendu vers une culture universelle.
Est-ce que vous souvenez de la... Merci beaucoup à Sadia Roubin d'avoir partagé cet extrait de France Culture sur Witold Gombrowicz. Où justement il parle de ce complexe de l'exilé. Finalement, c'est une figure majeure en Pologne, mais il est moins connu en France. À votre avis, pourquoi ?
Alors, tout d'abord, donc, merci Laura pour cette invitation, encore une fois. Alors, je suis venue dans le cadre ici, dans ce studio, dans le cadre d'une émission de Valérie Vial consacrée au Festival Augenblick, donc qui est un festival de cinéma germanophone, donc allemand, mais aussi autrichien et suisse. Et là, c'est tout nouveau pour moi parce que vous me faites revenir dans les années 90, où je découvre Gombrowicz sur les scènes du théâtre Powszechny, c'est l'un des théâtres les plus importants de Varsovie, où en 93, donc j'avais 10 ans à l'époque, donc c'était en mars, ça fait 10 ans, 32 ans maintenant pile, je découvre Faire de Durkheim. Et c'est une pièce qui m'impressionne énormément. Donc je suis très jeune certes, mais il y a une puissance dans cette œuvre qui est mystérieuse et puis qui peut avoir énormément de lectures pour adultes, mais aussi pour les enfants. Hein. C'est très drôle. Et ce cynisme propre à Gombrowicz, on le ressent, on s'en amuse. Enfin, c'est vraiment très fort. Et là, ça c'est un petit. J'ai vu tout à l'heure avant de venir ici quelques photos de cette représentation du mars de 93. Donc c'est pour ça que je voulais en parler, parce que pour moi c'est vraiment plongé dans un univers très particulier. Et ce que chez Gombrowicz, donc par la suite, quand j'ai lu ses romans ou ses écrits, ce qui me vraiment touché, mais aussi impressionné, ce qui me parlait intellectuellement, c'est effectivement que Gombrowicz était un personnage et un écrivain, pour moi en tout cas, un peu à part, dans le sens où effectivement c'était un exilé. Hein, il est parti en Argentine quand la guerre a éclaté. Il a passé quasiment toute sa vie en exil. Enfin, après son départ, il n'est pas retourné en Pologne. Et en même temps, c'était un écrivain, et là, oui, on en parlera, mais Faire des Durs, qui en fait partie, ses écrits sont sa matière de travail, c'est la langue, donc c'est la langue maternelle de Gombrowicz. Il était impensable pour lui d'écrire dans une langue étrangère. Il parlait français, mais ce n'était pas du tout envisageable. Et donc son statut d'exilé, donc là dans le podcast que l'on a entendu, effectivement il parle d'exilé au sens spirituel, il parle d'antipatriote, un exilé un peu partout, et en même temps tendu vers une culture universelle. Et ce qui est intéressant dans ce qu'il venait de dire, ce que je trouve génial, c'est qu'effectivement c'est à la fois quelqu'un, enfin c'était un écrivain qui à la fois s'inscrivait totalement dans la culture polonaise, donc c'était un héritier de cette culture-là, linguistique et aussi littéraire et philosophique, et en même temps, alors paradoxalement, mais pas finalement, parce que je trouve que c'est ça qui est intéressant à voir, il était contre cette culture. Donc en fait, il était contre des idées ou des idéologies ou tout ce qui a nourri la littérature polonaise, notamment pendant la période romantique. Donc on parlait à l'époque de Pologne, Christ des nations. Vraiment, il y avait une dimension sacrificielle, puisque le pays a traversé toutes sortes de guerres, de partages possibles. Donc il y avait vraiment une littérature très, très focalisée sur la nation, sur la Pologne comme, oui, comme Christ. Hein. Il y avait une dimension religieuse. Et Gombrowicz, lui, il n'était jamais anti-religieux, pas du tout en fait. Il trouvait que la religion catholique, il y avait des choses qu'il y avait à prendre dans cette... mais pas, voilà, pas de cette manière, pas de façon
Oui, plus la
totale.
Foi que le culte. Finalement.
Voilà, c'est plus la foi que le culte. Et donc, il était surtout dans la dérision permanente et contre tout consensus, très anticonformiste, aussi bah, par rapport au régime communiste également, donc toujours un peu dans une sorte d'opposition cynique. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui m'interpelle, qui me touche, parce que c'est quelque chose, en tout cas, de ma culture littéraire polonaise. C'était rare pour moi d'avoir ce genre de modèle.
Oui, donc c'est aussi ce qui fait sa spécificité et qui fait qu'il a été moins connu, moins reçu en France, parce que c'est aussi très spécifique à... son parcours est spécifique à l'histoire polonaise, est spécifique à cette culture polonaise, à cet attachement à cet esprit sacrificiel, religieux de la Pologne.
Oui, tout à fait. Enfin, c'est spécifique dans le sens où c'est un peu à part, c'est un peu différent. Il est parti et puis c'était un peu comme si à distance, il restait polonais et en même temps, il ne pouvait plus s'identifier... il s'identifiait vraiment pas déjà avant, mais à cet enfermement. C'est-à-dire que ce qui lui manquait, c'était peut-être un côté provincial, on peut dire, comme il disait parfois, de la Pologne qui n'avait pas cette distance par rapport à elle-même et où il manquait de recul et d'une ambition un peu plus humaniste, universaliste, qui dépasse les frontières. Et une fois exilé, je pense que ça n'était que plus fort, en fait. C'est toujours comme ça quand on est exilé, hein. C'est quand on part, le monde s'ouvre et en même temps, tout ce qu'on a laissé derrière nous devient un peu plus limité, un peu plus réduit.
Lui se définit vraiment par le rejet, par l'exil, contrairement à d'autres auteurs que nous avons entendus dans l'émission, à Joseph Brodsky, par exemple, qui a complètement accepté l'exil, la nouvelle nationalité, lui, il se vit comme, il dit dans le podcast, anti-patriote. Mais justement, il démolit beaucoup, il rejette beaucoup, il détruit les traditions, les conventions. Mais si vous deviez résumer son apport, qu'est-ce qu'il construit ?
Alors, son apport... Alors, en fait, je sais que... cet anticonformisme... Alors déjà, pourquoi ? Parce que vous avez d'abord posé la question de savoir pourquoi il est moins connu en France qu'en Pologne. Donc il y avait ça. Alors, il y a déjà beaucoup d'écrivains polonais qui ne sont pas forcément connus en France. Donc il y avait Iwaszkiewicz, je ne sais pas dans quelle mesure il a été traduit et étudié en France, ou Mrożek notamment. Donc il y a des contemporains qui n'ont pas percé plus que ça. Miłosz peut-être un peu plus. Mais en tout cas, donc c'est toujours une question de qu'est-ce qui perce à quel moment. Mais en tout cas, Gombrowicz, maintenant, aujourd'hui, il est quand même en France parmi des littéraires ou des gens qui s'intéressent à la littérature. Il est quand même connu. Il y a toute une série à la Pléiade qui lui a été consacrée. Hein, donc aujourd'hui, il est plutôt reconnu par le milieu, en tout cas littéraire. Mais après, je ne sais pas. Je sais que je n'ai jamais lu Gombrowicz en français. Je ne sais pas en matière... donc la traduction, ça serait très intéressant de comparer. Peut-être on pourrait s'amuser à le faire un jour. Mais je ne l'ai lu qu'en polonais. Et effectivement, souvent, je me suis posé la question dans quelle mesure c'est possible de le traduire. Et peut-être aussi, il y a quelque chose dans la pensée de Gombrowicz qui était incompatible à l'époque avec un certain sérieux intellectuel français, il se peut, parce que il y a dans une interview, il parle de Sartre notamment, de sa critique de existentialisme dans lequel il se retrouvait pas du tout, Parce qu'il disait que non, en fait, moi, accepter le choix dans la souffrance, je ne vois pas, en fait. Moi, la souffrance, je n'accepte pas, ça m'édifie pas. Je suis contre. Enfin, c'était un peu pour résumer un peu son attitude. Donc, il se peut que ça ne matchait pas à cette époque-là avec la pensée en français.
Oui, puis on voit son rejet du jargon, même dans le passage où il se décrit comme communiste, pas du tout pour des raisons politiques ou économiques ou sociales, mais juste parce que ça emmerde les bourgeois. Mmh. Je résume un peu rapidement. Le rejet du jargon, des conventions. Et puis cet attachement à la langue polonaise, mais moi je m'interroge justement, qu'est-ce que ça donne Gombrowicz en polonais ? Là, on l'a entendu dans le podcast avec sa diction tellement particulière. Vous disiez que vous ne l'aviez jamais lu en français. Et en effet, moi, quand j'ai lu les traductions françaises, il y a des nouvelles qui me sont restées incompréhensibles, des jeux de mots, il y a une nouvelle où il y a des distiques, où il y a des bourrimés, des poèmes. On comprend qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Alors, ça donne quoi au polonais ?
Alors, j'ai ici un petit... Donc, il y a l'un des romans c'est emblématique de son travail, c'est Cosmos. C'est un roman, une nouvelle assez courte sur... qui justement, c'est à la fois du point de vue littéraire très gombrowiczienne, très linguistiquement parlant, très spécifique avec toutes sortes de diminutifs qu'on lui connaît, avec toutes sortes de... Il se focalise souvent dans son œuvre sur des détails. Donc là, le cosmos, ça commence par l'arrivée des deux... deux protagonistes qui voyagent, qui veulent un peu quitter leur lieu et puis respirer, prendre un peu l'air. Et puis, ils s'arrêtent sur un détail. C'est un détail qui est un moineau pendu. Et puis, en fait, toute l'ouverture... bon, je ne vais pas lire toute l'ouverture parce que c'est assez long. Il va raconter ce détail, ce moineau pendu. Tout va tourner autour de ça. C'est pour lui, dans sa conception philosophique aussi, cette nécessité d'un ancrage dans le réel, donc quelque chose de palpable, partir des éléments qui sont là pour parler des choses, des objets. Et la langue... c'est une matière aussi pour le décrire. Donc en fait, le polonais et tout ce qu'il permet est inséparable de ce qui est derrière, en fait, en quelque sorte. Alors, je vais lire un petit extrait qui n'est pas... on n'a pas la traduction, mais donc je ne vais pas trop m'étaler, mais c'était juste pour entendre un petit peu ce qui est déjà la langue de Gombrowicz. Opowiem inną przygodę dziwniejszą. Pot. Idzie fuchs. Ja za nim. Nogawki. Obcasy. Piach. Wleczemy się. Wleczemy. Ziemia. Kolejny. Gruda. Błyski ze szklistych kamyczków. Blask. Upał. Brzęczy. Gorące. Drgające. Czarne od słońca. Domki. Płoty. Pola. Lasy. Ta droga. Ten marsz. Skąd? Jak? Dużo by gadać. Prawdę mówiąc, byłem zmęczony ojcem i matką. W ogóle rodziną. Zresztą chciałem odwalić przynajmniej jeden egzamin, a też zaczerpnąć zmiany, wyrwać się, pobyć gdzieś daleko. Wyjechałem do Zakopanego, idę Krupówkami. Zastanawiam się, jaki był pensjonacik niedrogi. Wytrzasnąć i spotykam fuksa. Ryża, morda, wyblakła, blond, wyłupiasta, spojrzenie wysmarowane apatią. Ale ucieszył się. Ja się ucieszyłem. Jak się masz? Co tu robisz? Szukam pokoju. Ja także. Mam adres, powiedział. W dworku. Gdzie tam? I taniej. Bo daleko, prawie już na gołej wsi. Idziemy więc. Nogawki, obcasy, w piachu, droga i gorąc. Patrzę w dół. Ziemia, piasek. Iskrzą się kamyczki. Raz, dwa. Nogawki, obcasy, pot. Śpik w oczach niewyspanych. Z pociągu i nic prócz kroczenia tego oddolnego. Stanął. Wypoczniemy? Daleko jeszcze? Niedaleko.
Vous donnez envie d'apprendre le polonais.
Alors, oui. Bah, en fait, c'est drôle parce que je n'ai pas... ça fait maintenant plus de 22 ans que je vis en France. Donc, je lis en polonais, mais pas à haute voix. Donc, c'est peut-être l'une des rares fois où je lis en polonais à haute voix. Mais en tout cas, je ne sais pas si ça peut se sentir. Mais en tout cas, c'est un roman, mais qui est entièrement créé des mots et des sonorités propre à la langue polonaise, avec tout ce qui est imprononçable pour les Français notamment, et tout ce qui est pour nous complètement jubilatoire.
On sentait qu'il y avait une harmonie, qu'il y avait un rythme, qu'il y avait quelque chose de cascadant dans les lectures. Mais même sans comprendre de quoi il était question. On sentait des choses qui revenaient
Fuchs, oui, c'est le surnom de son compagnon de voyage. C'est deux étudiants qui doivent passer leurs examens, ils partent. Et puis voilà, on ne sait pas encore vers où ils vont, mais voilà, en fait, c'est juste là la description des maisons, des champs, des forêts, du soleil, de tout ce qui se passe autour. Il part de la chevelure de son compagnon. Voilà, il n'y a pas vraiment de... Il y a des virgules, mais il n'y a pas vraiment de ponctuation des phrases bien détachées. Et puis, à un moment donné, ils arrivent, donc là, ça va... C'est juste après, ils arrivent à détecter cet objet mystérieux qui pend. Donc, avant de comprendre ce que c'est, ils vont l'observer. Et puis, il y aura tout autour de ça. C'est-à-dire ce moineau qui est pendu comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a toute une... tout un échange philosophique autour de ce moineau pendu.
D'accord. Bon, c'est peut-être aussi pour ça que Ferdi Duc, qui est un roman, s'adaptait aussi bien au théâtre. Ce qui me mène à la dernière question. Vous, quelle est l'œuvre que vous recommanderiez de Gombrowicz pour quelqu'un qui ne le connaît pas encore? Où est-ce qu'on doit commencer?
Alors oui, c'est bien évidemment difficile comme ça pour moi de dire, parce que j'aime... énormément de choses. Alors peut-être la facilité, ça serait du point de vue nostalgique pour moi en tout cas, mais pas que. C'est effectivement Faire de Durk, Faire de Durk en français, qui est cette pièce qui met en scène des adultes infantilisés dans une classe, dans une école, où tout à coup on revient. Donc il faut que vous imaginez que vous, là aujourd'hui, avec tout le bagage, toute l'expérience que vous avez, vous retournez à l'école et vous êtes traité comme un enfant. Et tout ce que ça provoque. Et c'est bien sûr aussi une métaphore de la société dans laquelle, effectivement, on peut être infantilisé, on peut tout à coup se retrouver dans un système, donc peut-être un régime aussi, dans lequel il faut avoir sa place derrière le banc d'école, il faut lever la main quand on veut parler, il faut être vraiment... on est cadré et on obéit.
Finalement, un bon remède à la nostalgie, puisque ça nous rappelle que l'enfance n'était pas forcément la période idéalisée qu'on en garde par la suite.
Sauf au théâtre. J'ai pu le voir à 10 ans, donc le théâtre qui faisait partie de ma jeunesse en tout cas, et il y avait la possibilité de voir Gombrowicz. C'était très libérateur par rapport à...
Peut-être un jour à Augenblick de la littérature polonaise à Strasbourg.
C'est ça.
En tout cas, merci beaucoup, Sadia Roubin, pour votre intervention et pour votre lecture et votre expertise sur Witold Gombrowicz. Merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver sur les ondes de Radio Judaïka.
Merci à vous, Laura Siboni. À bientôt.